Chaque samedi à 8h30, Radio Sapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Sapi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Il n'est pas toujours facile au sein de la communauté de vivre en parfaite harmonie. Chaque individu possède une façon particulière de réagir à des problèmes qui les concernent individuellement ou qui touchent la communauté, mais il y en a qui en font un peu trop. Et ils ont des réactions qui ne sont pas faciles à accepter, qui font pour gérer ces sautes d'humeur. Alors pour vous, la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par saut d'humeur?
Le saut d'humeur, je voudrais plutôt commencer par l'humeur lui-même.
Oui.
Hein, il nous arrive, je vais parler en termes comme nous avons l'habitude, plus ou moins populaire, de parler de l'humeur comme une réaction ou une action que nous présentons, une facette que nous présentons vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne.
Oui.
C'est-à-dire quoi? On se rencontre et je connais Daniel. Il ne me reconnaît plus. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de le saluer et ce jour-là, je ne l'ai pas salué.
Mm-hmm.
On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, vous pouvez prendre le courage de dire, Papa Paul, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est déjà un signe qu'il y a une différence dans mes habitudes, dans ma manière de
réagir. Peut-être que je vous réponds méchamment.
Je ne veux d'ailleurs pas encore aller à la méchanceté, mais je voudrais simplement voir votre silence. Je n'ai pas réagi correctement ou comme d'habitude, et on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous m'approchez et que je vous repousse, alors dites qu'il y a quelque chose, il n'a pas bonne humeur aujourd'hui. Et quand il n'a pas bonne humeur, il faut chercher une explication. C'est là la question d'aujourd'hui. Il faudra que l'on comprenne que toute humeur que nous présentons a une histoire. Et une histoire lointaine comme une histoire proche. C'est ce que nous allons décortiquer dans ce travail.
Il y a même certaines personnes qui vous boudent, hein, telles qu'on le dit. Lorsqu'elle vous voit, elle fait semblant, c'est comme si elle vous ignore carrément. Alors que d'habitude, c'est pas ça.
Oui, mais il y a aussi des gens qui sont malheureux, qui sont considérés comme des personnes agaçantes.
Oui.
C'est-à-dire que dès qu'on annonce que Daniel arrive, ouf, on se dit.
Aïe, c'est fini, c'est lui-là, il va nous...
Qu'il vienne et qu'il parte.
Oui, il va mettre tout le monde mal à l'aise.
Mal à l'aise. Oui. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de chercher à améliorer, c'est-à-dire à préparer chacun à réagir de manière qu'il comprenne qu'il est dans la communauté pour supporter les autres, pour tolérer les autres, mais aussi pour qu'il puisse être toléré. Donc, c'est le premier travail, c'est de réaliser que l'on peut dormir. Faire des cauchemars, se réveiller le matin, de mauvaise humeur. Et ça, ce ne sont que des personnes qui savent s'observer, qui peuvent réaliser qu'ils doivent faire attention pour la journée, sinon ils auront accrochage avec des personnes qu'ils vont rencontrer. Il y en a également qui d'habitude sont blagueurs, qui croient que la personne humaine est constante. C'est-à-dire, avec Daniel, nous avons toujours blagué, et il met la blague partout et toujours.
Oui.
Alors on dit non, celui-là
ça ne va pas, il ne faut pas blaguer.
Donc il ne faut pas considérer sa blague comme blague, mais parce que tout ce qu'il dit passe par la blague. Alors à ce moment-là, on affiche également un comportement différent par rapport à lui.
Mais il peut y avoir une certaine catégorie des gens qui ne manifestent pas tellement leur humeur. Hein. Et la personne peut être en colère, mais elle cache ça par un sourire.
Oui.
On peut arriver des gens qui arrivent à cacher les sentiments, les humeurs qu'ils ont.
On l'appelle le sourire mécanique, un sourire qui n'a pas de profondeur. Pour un intime, on sait les lire.
Oui.
Une épouse, on sait que quand elle a souri de cette manière, ce n'est vraiment pas sourire. Quand en dehors des dents qu'elle va afficher, peut-être que les lèvres vont aussi suivre.
Oui.
Mais le reste du visage ne va pas suivre.
Oui.
C'est comme ça que le visage sera renfrogné, malgré que l'on veut sourire. Donc, la première chose que nous pouvons retenir de ce que nous venons de dire est qu'il nous arrive effectivement de ne pas accepter certaines blagues, la présence de certaines personnes, les certaines attitudes affichées par certaines personnes, et ça, quand ça provoque en nous une réaction négative, un sentiment négatif, alors on dit non, il y a mauvaise humeur de l'autre côté. Donc, c'est un problème d'abord du jugement. Moi, je peux être dans les environs, réaliser que deux amis, l'un est en train de blaguer, l'autre est très sérieux, alors c'est moi, c'est l'autre qui est sérieux qui jugera de son collègue comme moins sérieux, moins trop blagueur, ou bien qui exagère. Mais ça peut être considéré naturellement bon pour celui qui observe. Donc, l'affaire est à gérer à deux. C'est vrai que un problème peut se poser dans le groupe. C'est-à-dire, dans notre métier, nous pouvons nous retrouver parfois avec des collègues qui ont placé un mot qui choque, ou a posé un geste qui dérange, mais alors on se dit, c'est pas dans ses habitudes. Mais pourquoi il a fait? Il faudra prendre le temps de le rencontrer, de lui poser la question, et il vous dira, non, il peut même s'excuser. Écoutez, j'étais préoccupé par telle tâche que j'avais qui m'absorbait et qui fait que je puisse choisir de téléphone comme ça, mais ce n'était pas exprès. Parfois, on se dit, bon, si l'humeur est vraiment... Si la personne a un problème beaucoup plus sérieux, qui a commencé chez lui, il vient au travail, il ne mesure pas qu'il a changé de milieu, il risque de continuer avec cette humeur toute la journée et de gêner d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le problème. Oui. Donc, une certaine maturité s'impose pour qu'on réalise que ce que je vais présenter comme réaction ne concerne pas la personne qui est en face de moi. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes que nous avons refoulés depuis des années et qui pourront faire que quand je me retrouve devant une telle situation, j'ai réagi. Je voudrais dire ici, quelqu'un qui a perdu un membre cher de sa famille, dans des circonstances qui pourraient ressembler à celles que vous lui présentez, la réaction sera vive. Non, en tout cas pour ça, moi je ne tolère pas. Parce que il est arrivé, ça c'est l'exemple d'une mère de famille qui est venue me voir et dit, écoutez, tel que les enfants sont en train de jouer, je ne suis pas d'accord, ils ont promis à l'autre qu'ils vont le battre. Et dans ma famille, il y a eu quelqu'un comme ça à qui on avait promis des violences comme ça, mais finalement, on l'a tabassé et l'enfant est mort. Donc, chaque fois que quelqu'un parle de la mort chez nous, des menaces de ces gens, nous ne tolérons pas. Donc, la réaction est vive, malgré qu'on n'a pas encore tapé l'enfant, malgré que rien ne s'est encore fait, mais on s'est dit que c'est déjà le moment de réagir.
Alors, donc, quand on parle des sautes d'humeur, c'est-à-dire des changements ou des variations en humeur?
Le saut d'humeur, souvent, c'est observé chez des personnes qui ont été bien à un moment donné, sans rien comprendre.
Et après, on change.
Vous réalisez qu'il n'a plus l'humeur du moment.
Oui.
Vous blaguez avec lui et brusquement, il change. Et ça, c'est dans le féminin, et c'est lié aux hormones sexuelles. Parce qu'il y a souvent fluctuation entre l'hormone de la maternité et l'hormone de la féminité, notamment pour les experts, ils parlent de folliculine et de progestérone. La quantité variante de la progestérone et de la folliculine peut faire qu'à un moment donné, la femme puisse connaître des sauts d'humeur. Le saut d'humeur s'observe également chez les ménopausés, généralement, et même chez la personne, la femme féconde, on observe également des sauts d'humeur. Mais ce n'est pas seulement l'affaire des femmes. Je voulais dire que même chez les hommes, il arrive qu'une personne soit de bonne humeur le matin et
à un moment de la journée, échange d'humeur.
Peut-être qu'il a pensé à un problème qui l'a choqué, peut-être qu'il y a dans l'environnement quelque chose qui le choque. Il faut chercher.
Voilà, Edmond Bonzé nous appelle de Kananga et Aganzi Masundiku de Bukavu. Edmond, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur l'animateur.
On vous écoute, Edmond.
Ouais, c'est tel que je le disais là, suite à certains impératifs de la vie, à certaines difficultés qui ne permettent pas au papa de nouer les deux bouts du mois, il peut arriver que le papa, à un certain moment, les relations qu'il y avait entre la maman et les enfants deviennent beaucoup plus tendues. comment les autres membres de la famille peuvent arriver à comprendre le comportement du papa et l'aider à revenir aux bonnes relations humaines? Ça, c'est la première question.
La deuxième?
Et la deuxième question, je voulais savoir s'il existe un rapport entre certains troubles comportementaux. Entendez par là, ça peut être l'excitation mentale ou ça peut être la dépression. Est-ce qu'il y a certains rapports entre les troubles mentaux et le saut d'humeur?
Merci Edmond. Agandzi de Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour, je vous prie.
On vous écoute?
Oui, oui. Ma première question, c'est aussi. Bon, moi, je suis dans un groupe chrétien ici chez nous. On avait choisi quelqu'un comme président. Dès que l'avait choisi président, lui commence à marginaliser, il ne savait plus les gens, il commence à manipuler les autres comme des esclaves. On ne sait pas maintenant pourquoi on l'avait choisi. Dans ces cas-là, comment peut-on poser ce métier pareil? Et aussi, la deuxième question, c'est celle-ci. Comment on peut vivre encore avec les gens de différentes mentalités et différentes provinces? Parce que nous sommes dans un groupe, mais les gens arrivent de chaque province. Comment on peut vivre avec ces gens?
Merci. Notre invité va répondre pour vous là.
Merci Edmond, merci Agandzi. Au sujet de comment aider papa à revenir au bon sentiment, c'est d'abord, comme on le disait, dans tous les cas, même en milieu de travail, la première chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'autre est dans ces états.
Papa devient nerveux à la maison à cause de discuter de la vie, l'ambiance à la maison, c'est plus la même.
Et là où il y a dialogue, papa pourra éventuellement dire à ses enfants, aux membres de sa famille, qu'il est en train de traverser des moments difficiles. Parfois, c'est maman qui fait l'intermédiaire et qui dit, comprenez que votre père est en train de chercher des solutions au problème de la famille, mais il n'a pas encore pu. Alors, soyez tolérants, comprenez qu'il sera plus ou moins difficile à aborder pendant cette période. C'est déjà une façon de préparer l'environnement et de rendre papa sensible également aux réactions de l'environnement, parce que l'affaire de groupe, il ne faut pas que papa se sente seul dans cette situation et aidé par personne.
Mais il y a des problèmes là. La famille, les enfants ont besoin d'argent, la maman a besoin d'argent pour faire telle course. Ben voilà, les papas reçoivent toutes ces pressions tous les jours. Ben, il faut de l'argent, il n'en a pas. Ben, il devient nerveux.
Et Daniel, lui aussi, c'est une personne, il a besoin d'argent, il doit trouver l'argent. Comme il n'a pas trouvé, c'est votre père, c'est votre mari, c'est votre partenaire.
Oui.
Vous devez l'enfoncer jusqu'à ce qu'il passe à l'étape que Agandzi appelle ici la dépression nerveuse. Non, c'est que nous avons tous à faire lorsque une crise arrive, c'est de comprendre qu'il y a une crise.
Et il faut en parler.
Et il faut en parler et trouver ensemble des palliatifs, c'est-à-dire des comportements qui pourraient aider chacun à passer ces moments de manière paisible, en attendant que la solution vienne. C'est vrai que la pression scolaire, par exemple, l'école peut renvoyer des enfants. Et papa peut se retrouver avec des enfants qui sont à la maison, parfois des enfants qui sont malades, et peut-être d'autres situations de famille qui arrivent, qui pourraient alourdir sa croix. Mais il faudra qu'il trouve également dans son environnement une oreille attentive, qui comprenne et qui attend dans la patience, et qui accepte les conséquences qui pourraient éventuellement venir du fait qu'on n'a pas résolu le problème. Sinon, il devient malheureux, insupportable, d'abord en famille, mais aussi en dehors de la famille. Parfois, il y a des gens qui ont quitté leur famille parce qu'ils étaient incompris, incapables de résoudre les différents problèmes qui s'y posaient. Ils sont sortis et ils sont partis pour toujours, là où ils étaient compris. Entre guillemets. Bien que plus tard le problème va encore récurrir d'une autre manière, mais pour eux, à ce moment-là, la solution était de partir.
Voilà, sa deuxième question, le rapport entre troubles mentaux, les troubles au niveau mental et les sauts d'humeur.
Le trouble au niveau mental, quand on parle de trouble, c'est quelque chose de durable et de persistant. C'est vrai que, en termes psychologiques, quand on parle de trouble mental, c'est quelque chose de durable et c'est quelque chose qui exige que l'on puisse entretenir un traitement, un long traitement. Mm. Par contre, le saut d'humeur, c'est momentané, c'est lié à l'émotion.
Oui, Agassi, il a parlé de. Il est dans un groupe à Bukavu, et puis le chef qui est nommé, il veut manipuler tout le monde, et puis il dit comment vivre avec les gens des diverses cultures, les gens qui viennent des diverses provinces et de la République, et qui ont des façons de réagir qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Le dialogue a. Et le consensus sont deux mots souvent utilisés pour la conciliation. C'est-à-dire que vous avez choisi un chef, que nous sommes choisis un chef. Sur base de quels critères, peut-être que nous étions aussi manipulés pendant l'élection. C'est vrai. Mais maintenant qu'il est là, et que l'on réalise que son comportement n'est pas clément, n'apporte pas la paix, il faudra d'abord l'approcher. Ça, c'est la première règle. La deuxième, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut changer. Et la troisième, c'est de dire, ce qu'il ne peut pas changer, nous devons le tolérer parce que c'est sa nature. Et à ce moment-là, vous ferez de sorte que vous ne créez pas des situations qui pourraient les pousser à la manipulation ou à l'écrasement qu'il est en train de réaliser. Vivre avec des gens d'autres tribus, d'autres provinces, ainsi de suite, le monde est déjà une mosaïque de tribus, de provinces, et une personne qui vivrait à notre siècle sans tolérance de l'autre dans sa différence, c'est déjà quelqu'un qui est dépassé. Mmh. Il ne saura pas vivre, parce que, écoutez, le Congo déjà a combien de tribus à lui seul. Et si on doit considérer les autres tribus qui viennent s'installer chez nous, qui proviennent du Mali, du Togo, des pays voisins et même de l'Europe, où
les gens ont des réactions différentes,
les gens ont des humeurs différentes, mais oui. C'est que nous devons savoir, parce que c'était la question, oui. Comment vivre avec l'autre? Vivre avec l'autre, c'est d'abord le connaître. Deuxièmement, c'est l'aimer. L'aimer tel qu'il est. Et après, voir qu'est-ce que je peux changer et qui est changeable, sinon je le tolère tel qu'il est.
Voilà. Norbert Kimbenza nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Votre question, Norbert.
Oui, bon, je voulais demander à notre invité, parce qu'il y a des cas que j'ai vécu, il y a un ami qui a un peu de problèmes pour une réflexion. Donc lui, s'il s'agirait d'un problème, il est capable de pouvoir se défendre. Alors, il s'échappe pour chercher à changer son email par rapport à ses amis, si ça s'agissait d'un problème comme ça, et bon, d'une question bien d'une réflexion. Je me demandais, d'accord, c'est quoi, d'intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec lui? Parce que lui, s'il faut faire le débat, il n'a pas de réflexion sur, il s'échappe pour se comporter d'une manière là bizarre, et changer son email par rapport aux autres.
C'est-à-dire quoi, il s'efface souvent?
Bon, lui, oui. Et là, si on discutait, nous faisons un débat là,
oui.
S'il arrivait qu'il n'a pas des arguments sur le débat,
oui.
Il change d'humeur. Tu vois, pour que nous ne puissions plus lui poser des questions et lui affronter.
Oui.
Et peut-être qu'il n'a pas de point d'avis, il change d'humeur. Bon, c'est pas un tel type. On travaille avec lui sur le même groupe d'études. Moi, je suis un étudiant au campus. Mais on a un problème avec lui. On ne sait pas s'il faut l'écarter du groupe ou bien c'est comment. Bon, on se demande comment il faut continuer à vivre avec un type comme ça.
Paul Moula.
Merci Norbert. Il y en a qui se fâchent, il y en a qui parfois passent à l'injure, il y en a qui vont parfois gifler lorsque ils n'ont pas d'argument. Mais une chose, c'est de dire il n'y a pas de personne parfaite. Dans votre groupe, chacun a sa faiblesse. Lui, c'est son niveau peut-être qui ne lui permet pas de trouver davantage d'arguments, ou encore il n'a pas un langage, une expression facile, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des avis et même des arguments, mais qui sont incapables de communiquer et de les exprimer. Ce qui veut dire que dans cet esprit de la tolérance et dans l'amour que vous avez pour lui, vous voulez réussir avec lui, il faudra d'abord réaliser que lorsque il veut prendre cet élan, hein, vous pouvez l'inviter par exemple à se calmer, parce que c'est aussi possible.
Qu'il faut arrêter les débats.
sans arrêter le débat, mais demander à l'autre qui est énervé de répondre, c'est meilleur. Parce que on doit avancer dans le débat. Oui. On doit résoudre le problème. Il est jeté sur la table, nous devons discuter. Mais si on arrive à un saut d'humeur, à un énervement, on se dit non, arrête un peu, sois tranquille, parce que voici ce que nous voulons résoudre. Parce que dans la communication, il y a des moments où nous devons reformuler le problème. Parce que les esprits se sont tendus, on s'est dit, ben écoute, maintenant qu'on a atteint ce niveau, si nous ne pouvons pas remettre à plus tard la discussion, que nous devons continuer, on reformule le problème, on regarde les arguments qui ont déjà été formulés, et puis après on s'est dit, maintenant, est-ce qu'on peut reprendre la discussion?
C'est-à-dire qu'il y a certains qui disent qu'il faut peut-être changer de sujet, parler d'autre chose, et après, à un moment, revenir.
C'est aussi une bonne façon, oui. Si ça vous réussit. Mais si vous êtes contraint par le temps, vous ne pouvez pas toujours remettre à plus tard. Donc, il y a moyen de se dire, écoutons l'autre, changeons d'intervenant, et n'insistons pas seulement que ce soit toujours la même personne, sinon vous la martyrisez et vous n'aurez pas gain de cause.
Réponse à vos réactions, questions ou suggestions avec l'invité de Capu Service.
Mais pour nous parlons avec vous de la gestion des sautes d'humeur en communauté. Prenons le cas d'un homme avec sa femme à la maison. Sa femme change d'humeur à tout moment. À un moment, elle peut être joyeuse, à un moment, elle s'efface et puis elle est triste. Bon, comment vivre et comment gérer une telle personne?
Tout dépend du départ. Je l'ai dit, pour une femme, il est tout à fait normal qu'à certains moments, l'on sente cette variation d'humeur, parce qu'en elle circulent des humeurs, notamment la folliculine et la progestérone. Mmh. Mais lorsque ça devient habituel, c'est-à-dire qu'il y a eu un départ, quand vous vous êtes rencontrés chanceux, c'est vrai que vous avez vécu des moments heureux, mais des moments aussi difficiles, mais vous vous êtes toléré jusqu'au mariage. Dites, voulez-vous vous séparer, parce que l'autre aujourd'hui connaît ces moments de changement d'humeur? Non, c'est que l'on fait toujours en amour, sans être avoir la panacée de ceux qui connaissent l'amour. Mais ce qui arrive dans l'amour, c'est de se dire, maintenant là, je peux l'aborder. Ou je ne peux pas l'aborder, je le laisse au moins tranquille. Pendant que je suis en train de parler avec elle, je peux réaliser que maintenant, elle a atteint son seuil de tolérance. À ce moment-là, le silence est aussi de mise. Donc, il y a dans la communication en famille, comme dans la communication interpersonnelle dans notre communauté, il y a une attention que je dois porter à l'autre pour voir s'il est indiqué au moment, à tel moment, de parler de telle chose, parce que sinon, je m'égare, sinon je provoque l'autre, de manière qu'on atteindra un seuil où le dialogue sera encore impossible.
Dauphin Massika nous appelle de Matadi. Bonjour Dauphin.
Oui, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, justement à propos de ce que vous êtes en train d'évoquer tout de suite. Bon, je vis avec un ami, il a perdu ses parents depuis l'âge de 10 ans, je crois. Ses deux parents sont morts à l'accident.
Oui.
Et depuis ce jour, il a changé sa façon de vivre. Il est devenu une mère méchant, je peux dire. Il préfère vivre seul. Il ne parle vraiment à personne, il est toujours été. À part ça, il y a aussi des cas. J'ai aussi un ami à papa. Lui, de nature, il est méchant, il est colérique, il ne sourit pas. Bon, c'est pas bon, s'il y a quel genre de comportement, si c'est lié à l'humain ou c'est lié à la nature ou c'est lié au fait qu'on a perdu ses parents à un âge assez bas.
Merci beaucoup, Dauphin. Nous l'avons dit dès le départ en disant que toute humeur a une histoire lointaine ou bien une histoire immédiate. Dans le cas de l'ami qui a perdu ses parents, c'est vrai qu'il a été frustré, il souffre qu'il voie
ses deux parents
ensemble. Et beaucoup de cas d'ailleurs que présentent nos radios et nos télévisions autour de certaines réactions de certaines personnes qui, on apprend ici, ont brûlé l'église, ils ont tué, ils ont décapité. tout ça, c'est souvent lié au fait qu'on a connu un choc et ce choc n'a pas trouvé de remède. L'émotion, lorsqu'elle a gagné tout l'homme, va à un moment donné être refoulée dans le fort intérieur et va ressurgir parfois au moment inattendu. Mais dans le cas où la timidité s'installe chez l'orphelin, c'est vrai qu'il a besoin d'une... Il cherche une consolation. Il ressent un vide. Mais ce vide-là ne peut être comblé que par des gens qui essaient de le comprendre et qui essaient de partager. Parfois, il n'est pas facile de le laisser s'éclater, s'exprimer. Mais, comme je disais là, il faudra que l'on puisse l'aider à comprendre que sa situation n'est pas pire.
Comment l'aider? Il devient méchant, il veut toujours la solitude et être seul. Comment est-ce que Dauphin peut faire?
Mais autour de lui, Dauphin sait qu'il y a des gens qui le connaissent et qui parfois qui lui écoutent. Alors ce sont ces personnes-là qui doivent être instruites à l'approcher, à le persuader qu'il n'est pas destiné à vivre malheureux comme si c'était une fatalité éternelle. Non, les parents sont morts, mais en dehors des parents, il y a d'autres personnes qui l'aident à vivre aujourd'hui, à survivre. Sinon, il aurait disparu avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'aiment. Et il doit réaliser que depuis son jeune âge, il y a eu des gestes sans faire de la religion, des gestes de présence de Dieu. Dieu l'a aimé. Dieu l'a accompagné jusque là où il est aujourd'hui, et même Dieu a pourvu autour de lui des personnes, un environnement et parfois des moyens qui font qu'il puisse survivre. C'est ça que Dauphin doit faire, identifier des personnes qui peuvent parler à son ami et l'aider à réaliser que le monde n'est pas aussi injuste que ça. Ce sont les parents qui sont morts, mais au-delà des parents, il y a encore de chance. Il y a beaucoup de chansons qui passent. Moi, je fais attention parfois aux chansons qui disent « Tout est possible. Hein? On peut refaire une vie perdue. On peut récupérer un sourire. » Tout ça, c'est pour dire qu'il est possible quand il suffit simplement d'être attentif et le monde sera gai et heureux. Mmh. Au sujet de papa qui est colérique. Le papa qui est colérique, lui aussi a une histoire. Pourquoi il est devenu colérique? Peut-être qu'il a vu son père dans cette humeur-là. Ou encore, il a réalisé que les personnes qu'il héberge, notamment sa famille, les membres de sa famille, mais ne veulent pas faire ce qu'il veut. Alors, ça le révolte. Hein. Cette révolte peut se manifester par une colère qui va perdurer longtemps.
Donc, pour vivre avec les personnes qui ont des sautes d'humeur, il faut les accepter, il faut les aimer et il faut parler.
Il faut les aimer, il faut parler, il faudra également chercher à comprendre pourquoi ils changent d'humeur. Mmh.
Et lorsqu'on aura compris la source, l'origine du problème,
on peut alors pallier et voir dans quelle mesure l'autre doit se persuader qu'il doit aussi savoir qu'il gêne lorsqu'il connaît ses sauts d'humeur.
Paul Mboula, psychologue et éducateur à la vie, je vous remercie.
Merci, Daniel.